Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, Livre 2, France temps favorable, Chapitre 27e, Orage contre la reine de Navarre et son miroir de l'âme pécheresse, été 1533. Le parti romain ne pouvait se consoler de sa défaite. Béda, le Picard, Mathurin exilé, les prédications évangéliques se faisant librement dans les grandes églises de la capitale, la nouvelle doctrine portée dans tout Paris de maison en maison, et la reine de Navarre, assise pour ainsi dire sur le trône en l'absence de son frère, protégeant, dirigeant toute cette activité luthérienne, c'était trop. L'inquiétude et l'effroi augmentaient de jour en jour parmi les ultramontains. Ils avaient de nombreuses conférences, et si le jeune Alsacien que nous avons vu à la porte de la Sorbonne, ou d'autres curieux, avaient pu s'insinuer dans ces conventicules catholiques, ils y eussent entendu les plus violentes allocutions. « Ce n'est pas seulement l'approche de l'ennemi qui nous épouvante, disait-on. Il est là, révolutionnaire, immoral, impie, athée, abominable, exécrable. » On y joignait encore d'autres épithètes inscrites dans le vocabulaire de la papauté. Il fait des progrès rapides. Si nous ne lui opposons une résistance vigoureuse, c'en est fait. On verra peut-être s'écrouler sous ses coups les antiques murailles de ce catholicisme romain qui depuis tant de siècles abrite les peuples. Aussi la Sorbonne, les prêtres et les laïcs les plus fougueux étaient d'accord que sans s'arrêter pour le moment au personnage secondaire, il fallait frapper le plus dangereux. La reine de Navarre était, selon eux, le grand adversaire de la papauté. Les moines surtout, dont elle avait quelques années auparavant dévoilé les désordres, étaient pleins de fureur contre elle. Leurs clameurs retentissaient de tous côtés. La reine, disait-on, est l'Ève moderne, par lequel la nouvelle révolte entre dans le monde. C'est le propre de la femme de se laisser tromper, disait l'un, et pour le prouver, il citait saint Jérôme. La femme est la porte du diable, disait l'autre. Et il faisait parler Tertullien. Le côteleux serpent, disaient les plus grands docteurs, se souvient du mémorable duel dont le champ clos fut le paradis terrestre. Un autre combat commence, et il met de nouveau en pratique la ruse qui lui a si bien réussi. Au commencement du monde et maintenant, c'est toujours contre la femme, cette muraille chancelante, ce pan plus faible et plus facile à renverser, qu'il dresse sa batterie. C'est la reine de Navarre qui maintient en France les disciples de Luther. Seule elle les a placés dans les écoles, seule elle veille sur eux avec un soin merveilleux et les sauve de tout péril. Il faut ou que le roi la punisse, ou qu'elle rétracte publiquement ses erreurs. Les ultramontains ne se bornèrent pas à des discours. Ils formèrent un détestable complot pour perdre la pieuse princesse. Ce n'était pas chose facile. Le roi l'aimait, les gens de bien la vénéraient, toute l'Europe l'admirait. Cependant, François Ier étant très jaloux de son autorité, les prêtres espéraient profiter de son extrême susceptibilité pour le brouiller avec une sœur qui osait avoir un sentiment à elle. D'ailleurs, la reine de Navarre avait à la cour, comme toute personne marquante, des ennemis puissants, d'une ingratitude scythique, qui, reçue dans sa maison et élevée par elle aux honneurs, faisaient secrètement tout leur possible pour lui faire encourir la malle du grâce du roi et de l'autre roi, son mari. Le plus dangereux de tous était le grand maître Montmorency, homme entreprenant, courageux, impérieux, habile pour sa propre fortune, quoique malheureux quand il s'agissait de celle du royaume. D'ailleurs rude, inculte, ne faisant aucun cas des lettres, détestant la Réformation, irrité par le prosélytisme de la reine de Navarre et plein de mépris pour ses livres. Montmorency avait une grande influence sur François Ier. La Sorbonne se disait que si le grand maître se déclarait contre elle, il serait impossible à Marguerite de conserver la faveur du roi. Une occasion se présenta de commencer l'attaque, et la Sorbonne la saisit. La reine de Navarre, soupirant après l'heure où une religion spirituelle et pure viendrait enfin remplacer les rites stériles de la papauté, avait composé puis publié en 1531 chez maître Simon Dubois, libraire à Alençon, un poème chrétien intitulé « Le miroir de l'âme pécheresse, auquel elle reconnoît ses fautes et péchés, aussi sa grâce et bénéfice à elle fait par Jésus-Christ, son époux. Plusieurs personnes avaient lu ce poème avec intérêt et avaient admiré la piété et l'esprit de la reine. Voyant que cette première édition, hasardée dans une ville qui lui appartenait, n'avait pas fait de bruit, suscité de persécutions et même lui avait attiré quelques félicitations, Marguerite prit envie de lancer dans un plus grand public son pieux manifeste. Encouragée d'ailleurs par la position que son frère venait de prendre, elle s'entendit avec un libraire un peu hardi et en 1533 publia à Paris même une édition nouvelle de son livre sans y mettre le nom de l'auteur et sans demander l'autorisation de la Sorbonne. Ce poème était doux, spirituel, inoffensif comme la reine elle-même, mais enfin il était de la sœur du roi et fit aussitôt une immense sensation. Il y avait dans ses vers des voix nouvelles, des aspirations vers le ciel dès longtemps inconnues. Plusieurs les entendirent et l'on vit paraître çà et là certaines manifestations d'une piété douce, intime, depuis longtemps oubliée. La Sorbonne, effrayée, cria à l'hérésie. Il y avait même dans le miroir plus que des aspirations. On y trouvait, il est vrai, rien contre les saints, ni contre la Vierge, rien contre la messe, ni contre la papauté, pas un mot de controverse, mais on y rencontrait fortement accentué la doctrine essentielle de la Réformation, le salut uniquement par Jésus-Christ et l'assurance certaine de cette rédemption. À l'époque dont nous parlons, Beda n'avait pas encore été exilé. Il avait été chargé par la Sorbonne, au commencement de 1533, de l'examen des livres nouveaux. Le fougueux syndic découvrit le miroir et, au comble de la joie, il se jeta sur ce livre pour y chercher matière à accusation contre la sœur du roi. Il le dévora. Jamais lecture ne l'avait encharmé, car il avait enfin des preuves que la reine de Navarre était véritablement hérétique. « Mais entendez-moi bien, disait-il, ce ne sont ni des preuves muettes, ni des semi-preuves, ce sont des preuves littérales, testimoniales, complètes. » Beda attaquera donc Marguerite. Quel contraste entre la religion officielle de l'Église et celle de ce poème spirituel. Saint Thomas et les autres chefs de l'école enseignent que l'homme peut avoir des mérites au moins de convenance, qu'il peut faire des œuvres surérogatoires, qu'il faut confesser ses fautes à l'oreille du prêtre, satisfaire par les actes de la pénitence à la justice de Dieu. Satisfactio operis. Mais selon le miroir de l'âme pécheresse, la religion est beaucoup plus simple. Tout se résume en ces deux termes, le péché de l'homme et la grâce de Christ. Ce dont l'homme a besoin, selon la reine, c'est que ses péchés lui soient remis, entièrement pardonnés à cause de la mort du Sauveur. Et quand il a trouvé par la foi l'assurance de ce pardon, il a la paix. Il doit considérer tout son passé comme n'étant plus pour lui un sujet de condamnation devant Dieu. C'est la bonne nouvelle. Or, cette nouvelle scandalisait fort Beda et ses intimes. Quoi, disait-il en tenant le fameux livre ouvert devant eux. Quoi? Plus de confessions auriculaires, plus d'indulgences, plus de pénitences, plus d'œuvres pies. La cause du pardon, c'est l'œuvre réconciliatoire de Christ. Et ce qui nous l'approprie, ce n'est pas l'Église, c'est la foi. Le syndic résolut de faire connaître ce livre affreux à toute la vénérable compagnie. En effet, la Sorbonne s'assembla, et Beda, tenant en main le poème hérétique, lut à ses collègues les passages les plus scandaleux. « Écoutez, disait-il, et tous les docteurs attentifs restaient bouche béante et les yeux fixés sur leur syndic. Beda lisait. « Ô Jésus-Christ, des âmes vrais pécheurs, mon avocat, mon unique sauveur, je ne crains plus d'être jamais défaite, car vous avez justice satisfaite. Mon époux prend tous mes péchés sur soi, et puis il met tous ses biens dessus moi. Venez, sauveur, vos vertus présentées. De mes péchés portés de bon courage sur une croix par votre passion, vous avez fait la satisfaction. » On a dit que les poèmes de Marguerite étaient de la théologie en vers. Ces vers, il est vrai, ne sont pas aussi élégants que ceux de notre siècle, et le sens en est plus théologique qu'on ne le voit dans les poésies de nos jours. Mais cette théologie n'est pas celle de l'école, c'est celle du cœur. Ce qui irritait surtout la Sorbonne, c'était la paix L'assurance que Marguerite possédait en son âme, précieux privilège d'une âme sauvée, mais que la scolastique avait à l'avance condamnée. La reine, appuyée sur le sauveur, semblait n'avoir plus aucune crainte. « Écoutez, disait Beda. Avis d'enfer, où est votre défense? Vilain péché, où est votre puissance? Unie à Christ, je ne puis avoir peur. Peine, travail, ennui, mal, ni douleur. Très faible suis en moi, en Dieu très forte, car je puis tout, en lui qui me conforte. » Ainsi, disait-on à la Sorbonne, la reine de Navarre s'imagine que les péchés sont remis gratuitement, sans qu'aucune satisfaction soit exigée des pécheurs. « Voyez, disait le syndic, assurance insensée dans laquelle la nouvelle doctrine peut jeter les âmes. Voici ce qu'on lit dans le miroir. Ni de ton ciel l'infini hauteur, ni de l'enfer l'abîme et profondeur, ni le péché qui me fait tant la guerre, ne me peuvent séparer un seul jour, ô Père Saint, de ton parfait amour. » Cette foi simple appuyée sur les promesses de Dieu scandalisait les docteurs. Personne, disait-il, ne peut se promettre rien de certain quant à son salut, à moins de l'avoir appris par une révélation particulière de Dieu. Le Concile de Trente fit de cette assertion un article de foi. La reine, continuait l'accusateur, parle comme si elle ne soupirait qu'après le ciel. Ô mon vrai Dieu, que cette mort est belle! Par qui j'aurais faim de toute querelle, je vous requiers, venez hâtivement, et mettez fin à mon gémissement. » Quelqu'un ayant remarqué que la reine de Navarre n'avait pas mis son nom dans le titre de son ouvrage, « Attendez la fin, dit le dénonciateur, la signature s'y trouve. » Et il lut le dernier vers, « Le bien qu'il fait à moi, sa Marguerite. » Bientôt du haut des chairs retentirent des insinuations et des accusations contre la sœur du roi. Tel moine faisait trembler ses auditeurs en décrivant les coupables hérésies de Marguerite, et l'autre cherchait à les faire rire. Ces choses, dit Théodore de Bèze, irritèrent extrêmement la Sorbonne, et notamment Beda et les autres de son humeur, et ils ne pouvaient se tenir de bâiller des atteintes en leur sermons à la reine de Navarre. D'autres motifs excitaient la colère des moines. Marguerite ne les aimait pas. Le monachisme était une des institutions que les réformateurs voulaient voir disparaître de l'Église, et malgré son esprit conservateur, la reine de Navarre ne voulait pas la garder. Les nombreux abus de la vie monastique, la contrainte dont les vœux étaient souvent accompagnés, les vocations machinales de la plupart des religieux, leur paresse, leur sensualité, la mendicité changée par eux en manière de vivre, leur prétention extravagante de mériter l'éternité et d'expier leurs péchés par leur discipline, la conviction orgueilleuse qu'ils avaient d'atteindre à une piété qui dépassait les exigences de la loi divine, la défaveur que le système monacal jetait sur les vocations instituées de Dieu, sur le mariage, la famille, le travail, l'état politique, enfin les exercices corporels et les macérations placées au-dessus de cette charité vivante qui provient de la foi et de tous les fruits de l'Esprit de Dieu dans l'homme, tout cela, selon les réformateurs, était entièrement opposé à la doctrine de l'Évangile. Marguerite alla encore plus loin. Elle n'avait pas ménagé les moines, et faisant un fouet de petites cordes, elle les en avait fustigés. Ce n'était pas assez qu'Érasme et Ulrich de Huten les eussent couverts de honte. La reine de Navarre avait dépeint dans quelques nouvelles leur caractère si bas et leur vie si dissolue. Elle n'avait, il est vrai, communiqué ses récits qu'à son frère et à sa mère, et ne voulut jamais les livrer à la publicité. Mais quelques copies en avaient circulé parmi les gens de la cour, quelques feuilles étaient tombées dans les mains des moines, et de là leur colère. Marguerite, comme beaucoup d'autres de son temps, s'était trompée, c'est au moins notre avis, sur la manière dont il fallait combattre les vices des monastères. Suivant l'exemple du plus fameux prédicateur du Moyen-Âge, Menot, elle avait décrit fidèlement, naïvement, quelquefois crûment, l'avarice, les débauches, l'orgueil, tous les vices des couvents. Elle avait fait mieux pourtant. Elle avait opposé aux stupides sottises et aux discours déshonnêtes des cordeliers la parole simple et sévère des prédicateurs de l'Évangile. « Ce sont des contes moraux, dit un auteur contemporain, qui n'est pas très favorable à Marguerite. Ils dégénèrent souvent en véritables sermons, en sorte que chaque histoire n'est à vrai dire que la préface d'une homélie. Après un récit où se montre la fragilité humaine, Marguerite commençait ainsi son application. Sachez qu'au premier pas que l'homme marche en la confiance de lui-même, il s'éloigne d'autant de la confiance en Dieu. Après avoir raconté un faux miracle par lequel un moine incestueux avait voulu surprendre le comte d'Angoulême, père de Marguerite, elle ajoutait « Sa foi fut à l'épreuve de ces miracles extérieurs. Nous n'avons qu'un sauveur, qui en disant consummatum est, a fait voir qu'il ne fallait pas attendre un successeur pour opérer notre salut. Personne, sauf les moines, ne songea au XVIe siècle à se scandaliser de ces récits. La parole avait alors une liberté qu'elle ne doit plus avoir à cette heure. Et chacun sentait que si la reine était vraie en dépeignant les désordres des religieux et d'autres classes de la société, elle l'était aussi en exprimant la sévère moralité de ses propres principes et la pureté vivante de sa foi. Ce fut sa fille, l'austère Jeanne d'Albret, qui fit publier la première édition correcte de ses nouvelles. Et certes, elle ne l'eût pas fait si cette publication avait pu nuire à la mémoire de sa mère. Mais les temps ont changé. Ce livre, innocent alors, ne l'est plus à cette heure. De nos jours, on ne lira que les contes. On laissera les sermons. Tout est dangereux pour la jeunesse de notre siècle. Nous absolvons l'auteur quant à ses intentions, mais quant à son œuvre, nous la condamnons. Et, nous en faisons nos excuses aux amis des lettres qui nous accuseront de barbarie, s'il fallait prononcer sur le sort de ce livre de Marguerite, nous leverions volontiers la main pour qu'on lui en fît subir un semblable à celui dont il est parlé dans la Bible quand il est dit que plusieurs Corinthiens apportèrent leurs livres et les brûlèrent. Revenons au miroir où se reflète l'âme pieuse de Marguerite. La faculté décida que la première chose à faire était de parcourir la ville, de fouiller dans toutes les librairies et de saisir tous les exemplaires qui s'y trouveraient. Ici, Beda disparaît. Ce n'est plus lui qui joue le principal rôle. Il est probable que les poursuites dirigées contre lui avaient alors commencé. Mais cette persécution, en enlevant au parti romain son chef, devait accroître la colère et par conséquent les efforts de la Sorbonne pour perdre la reine de Navarre. Le curé Leclerc, à défaut de Beda, fut chargé de la perquisition. Il visita toutes les librairies, accompagné des huissiers de l'université. Il saisit le miroir de l'âme pécheresse partout où l'on ne parvint pas à le lui dérober et revint à la Sorbonne chargé de ses dépouilles. Alors, la faculté délibéra sur les mesures à prendre contre l'auteur. La chose n'était pas facile. On savait que le roi, vif et violent, avait beaucoup d'estime et d'affection pour sa sœur. Les hommes les plus sages dans la faculté hésitaient. Ces hésitations indignèrent les moines et la fureur dont les plus fanatiques étaient saisis s'étendit jusque dans les provinces. À Issoudun, dans le Berry, une assemblée de religieux se forma pour discuter ce qu'il y avait à faire. Le supérieur des cordeliers, homme impétueux, téméraire, forcené même, parlait plus fort que tous les autres. « Pas tant d'affaires, s'écria-t-il, qu'on enferme la reine de Navarre dans un sac et qu'on la jette à la rivière. » Cette parole qui courut la France, ayant été rapportée au docteur de Paris, les alarma, et plusieurs préférèrent une persécution moins violente. Alors un dominicain, encore un moine, se leva et dit « Ne craignez rien, nous ne serons pas seuls à poursuivre cette princesse hérétique. Monsieur le grand maître est son mortel ennemi. » En effet, Montmorency, qui était après le roi le personnage le plus important du royaume, cachait sous son voile religieux un cœur dur, une humeur chagrine, et il était craint de tous, même de ses amis. Si l'on parvenait à le gagner, la reine de Navarre, attaquée à la fois par le parti prêtre et le parti politique, devait succomber sous leur coup. Marguerite supporta ces injures avec une admirable douceur. Elle avait dans ce moment même, avec Montmorency, une correspondance presque journalière, et signait toutes ses lettres « Votre bonne tante et amie ». Pleine de confiance dans cet homme perfide, elle lui demanda de la défendre. « Mon neveu, lui écrivit-elle, je vous prie de penser qu'étant maintenant loin du roi, il est besoin que vous m'aidiez en cette affaire. Je me fie en vous, et sur cette fiance qui sans doute ne peut jamais me faillir, se va reposer votre bonne tante et amie Marguerite. » La reine fit quelque allusion aux paroles violentes des moines, mais avec une grande débonnairité. « J'ai prié le porteur, écrivit-elle, de vous parler de quelque folie qu'un jacobin a dite en la faculté de théologie. » Ce fut tout. Elle ne prononça pas une parole amère. Montmorency, ce courtisan impérieux, qui bientôt poursuivit les protestants à toute outrance, commençait à se croire assez fort pour perdre Marguerite, et nous verrons bientôt quel fut le résultat de ses perfides insinuations. La Sorbonne délibérait sur ce qu'il y avait à faire. Selon les ordonnances des papes Sixte IV et Alexandre VI, des livres, des traités ou des écritures quelconques ne pouvaient être imprimés sans une autorisation expresse. Or, la reine de Navarre avait imprimé son livre sans aucune permission. La compagnie décréta, sans avoir l'air de soupçonner l'auteur, que le miroir de l'âme pécheresse était interdit et portait sur l'index Librorum Prohibitorum. Ce n'était pas assez. Les prêtres ameutèrent les écoliers. Mais tandis que les premiers jouaient la tragédie, ce fut à une comédie qu'eurent recours les seconds, ou plutôt leurs pédagogues. Les écoliers du collège de Navarre, qui sortaient de la classe de grammaire et entraient dans celle de dialectique, avaient coutume de donner le 1er octobre une représentation dramatique. Les chefs cléricaux du collège, voulant rendre la reine odieuse au peuple et ridicule à la cour, composèrent une comédie. On distribua les rôles aux écoliers, on commença les répétitions, et ceux qui y furent admis trouvèrent que l'auteur avait tellement assaisonné sa fable de vinaigre et de fiel qu'elle emportait la pièce. Le bruit s'en répandit dans le monde latin. Calvin lui-même l'entendit, car il était resté au courant de tout ce qui se faisait dans les écoles. Tout en s'appliquant sans cesse à l'œuvre de Dieu, il avait aussi l'œil sur l'œuvre de l'adversaire. On parla tant de cette comédie que le jour de la représentation étant arrivé, on accourut de tous côtés et la salle se remplit. Les moines et les théologiens prirent les premières places et la pièce commença. Une reine, magnifiquement vêtue, assise tranquillement sur le devant de la scène, filait et semblait ne penser qu'à son rouet. « C'est la sœur du roi, » dirent les spectateurs. Elle ferait bien de s'en tenir toujours à sa quenouille. Alors parut un personnage étrange. C'était une femme vêtue de blanc, armée d'un flambeau, et jetant autour d'elle un regard terrible. Chacun reconnut la furie mégère. « C'est maître Gérard, disait-on, l'aumônier de la sœur du roi. » S'avançant avec prudence, Mégère s'approche de la reine dans le but de l'enlever aux occupations paisibles de la femme et de lui faire poser sa quenouille. Elle ne se montre point ouvertement son ennemie, mais s'avance finement, prenant une belle apparence, comme lui apportant de nouvelles lueurs. Elle passe et repasse autour d'elle et s'efforce de la distraire au moyen de sa torche qu'elle place résolument sous ses regards. La princesse résiste d'abord. Elle file, file, mais à la fin, ô malheur, elle s'arrête. Elle se laisse attirer par la fausse lumière dont on l'entoure. Elle cède, elle quitte son rouet. Mégère a triomphé, et en échange de la quenouille, elle place aussitôt dans la main de la reine l'évangile. Ô prodige ! L'effet est magique. En un moment, la reine est transformée. Elle était douce, elle devient cruelle. Elle oublie ses vertueuses et antiques coutumes. Elle se lève, elle tourne partout des yeux hagards, elle prend la plume, elle écrit des ordres sanguinaires et fait même subir aux malheureux de douloureux tourments. Des scènes plus outrageantes encore succèdent aux premières. La sensation était générale. Voilà, disait-on dans les salles, voilà les fruits de l'Évangile. Il débauche les esprits après les nouveautés et les folies. Il enlève au roi la dévotieuse affection de ses sujets et ravage l'État et l'Église. Enfin la pièce finit. La Sorbonne triomphait. La reine de Navarre avait jadis donné quelques soufflets aux prêtres et aux moines, ceux-ci la souffletaient à leur tour. Les bravos éclataient sur tous les bancs, et les théologiens surtout battaient des mains de toute leur force. Jamais on n'avait entendu des applaudissements tels que ceux des révérends docteurs. Il y eut pourtant quelques hommes raisonnables à qui cette farce dirigée contre la sœur du roi parut inconvenante. Vraiment, disaient-ils, ils n'ont mis ni voile ni figure. La reine est indignement et ouvertement insultée dans cette comédie. Les moines, comprenant qu'ils avaient été trop loin, voulurent étouffer l'affaire. Et bientôt toute la ville en fut pleine, et quelques jours après, un ami malin vint la raconter à la cour et récita toute la comédie, scène après scène, à la reine de Navarre elle-même. La Sorbonne, la plus grande autorité de l'Église après le pape, avait frappé le premier coup. Le second lui avait été donné dans les collèges. Le troisième devait l'être à la cour. En perdant cette princesse aux yeux de son frère, les ennemis de la Réformation lui causeraient la plus ineffable douleur, car elle adorait presque François Ier. Ensuite, il la ferait reléguer dans les montagnes du Béarn. Montmorency se prêta à cette intrigue. Il s'avança prudemment, Il parla au roi de l'hérésie, des dangers qu'elle faisait courir à la France, de l'obligation d'en délivrer le royaume pour sauver les âmes. Puis, semblant hésiter, il ajouta : Il est vrai, sire, que si vous vouliez extirper les hérétiques, il vous faudrait commencer par la reine de Navarre. Ici, il s'arrêta. Marguerite ne connut pas d'abord cette perfide insinuation, mais chacun lui répétait que si elle laissait impunies les impertinences des moines et les condamnations de la Sorbonne, elle encouragerait leur malice. Elle communiqua ce qui s'était passé à son frère, se déclara l'auteur du miroir, et insista sur ce qu'on n'y trouvait que des sentiments de piété, sans aucune attaque contre les doctrines de l'Église. « Nul de nous, disait-elle, n'ont été trouvés sacramentaires. » Enfin, elle demanda que la condamnation de la faculté de théologie fût annulée, et que le collège de Navarre fût rappelé à l'ordre. Calvin suivit de très près toute cette affaire. On dirait presque, en lisant sa lettre, qu'il était au nombre des spectateurs. Il trouva indigne la conduite des écoliers et de leurs maîtres. Les chrétiens, disait-il, sont mis en montre comme quand dans un triomphe on promenait dans toute la ville les pauvres prisonniers que l'on menait ensuite droit en prison pour les étrangler. Mais ce spectacle que l'on fait des fidèles ne nuit en rien à leur félicité, car devant Dieu ils restent en possession de la gloire, et l'Esprit de Dieu leur en donne un témoignage qui demeure ferme dans leur cœur.